Raphaël Antoven, bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bienvenue sur les nouveaux chemins. Hey, you know what? Diffusés tous les jours de 10h à 11h, du lundi au vendredi, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par François Connac avec ce matin Bruno Niebdanski à la technique et préparés par Mathilde Unger, Geneviève Méric, François Salmeron, Géraldine Mosna-Savoie et Adèle Van Rett. Adèle, que ses auditeurs retrouvent autour de 10h50, comme tous les jours, pour le journal des Nouveaux Chemins. Et Adèle qui vous parlera tout à l'heure d'Alain, du grand Alain, le maître des professeurs, dont un inédit vient de paraître chez Aubier et qu'Emmanuel Blondel viendra vous présenter. Quant à nous, c'est l'entame, ce lundi, d'une semaine sur l'utilitarisme dans les Nouveaux Chemins de la connaissance. L'utilitarisme ou l'arithmétique du plaisir et de la douleur sur laquelle repose l'édifice de la félicité, tout un programme. Au programme, justement, demain mardi, en compagnie de Jean-Pierre Clairaut, nous parlerons de l'anticonformiste, utopiste et néanmoins libéral Stuart Mill. Mercredi, nous singerons Singer et son éthique animale avant d'examiner jeudi et vendredi deux aspects d'une critique possible de l'utilitarisme ou les objections que la morale adresse à l'éthique des plaisirs quantifiés. Mais dans l'immédiat, tout de suite et maintenant, ce lundi, c'est de Jeremy Bentham et de son arithmétique des plaisirs que nous allons parler en compagnie d'Emmanuel Deschamps, maître de conférences en civilisation britannique à l'Université Paris 8, auteur notamment de « La déontologie politique ou la pensée constitutionnelle de Bentham » paru chez Droz. Bonjour Emmanuel Deschamps.
Bonjour Raphaël Antoven.
Et bienvenue sur les Nouveaux Chemins. C'est un plaisir de commencer cette semaine avec vous sur l'utilitarisme. Alors autant jouer franc-jeu, hein. Mon inculture, non pas celle de Géraldine Mosna-Savoie qui a travaillé aux besoins de cette émission, à la préparation de cette émission, mais mon inculture en matière d'utilitarisme est à peu près encyclopédique. C'est la raison pour laquelle, en lisant le travail que Géraldine proposait sur Bentham pour préparer cette émission, j'ai pensé à ce que je connaissais un peu mieux, c'est-à-dire Spinoza. Et notamment la fameuse phrase qu'on lui a reprochée, qui clôt la préface de la troisième partie de l'éthique, dans laquelle Spinoza dit, la troisième partie qui porte sur les passions, Spinoza dit « Je considérerai les actions et les appétits humains comme s'il était question de ligne, de surface et de solide. Est-ce qu'une telle position, profession de foi, pétition de principe, correspond ou permet de résumer en un sens l'ambition des utilitaristes et de Bentham en particulier ?
Alors Bentham n'emploierait certainement pas cette métaphore-là. Bentham tente d'objectiver les plaisirs et non pas de montrer, comme Spinoza dans cet extrait, leur dynamique propre. Bentham parlerait plutôt de la matière du plaisir, de la matière de la douleur. Ce que ferait Bentham également, et jusqu'où n'ira pas Spinoza, c'est vers la quantification des plaisirs et des douleurs.
Précisément, on est dans la quantification des plaisirs, mais on est dans une mesure des plaisirs. Spinoza a des rapports complexes avec la question de l'utile, hein, puisque les mots-clés, évidemment, c'est utilité, utile, bonheur également, et plaisir. Il faut ici opérer des distinctions précieuses pour comprendre ce dont il s'agit. Spinoza a une position ambiguë sur la question du plaisir, enfin ambiguë. Il critique, sur la notion de l'utile, il critique l'utile au début de l'éthique comme source du finalisme. On interprète en termes utilitaires une nature dont, à laquelle du coup on attribue un sens qu'elle n'a pas. Mais dans le même temps, il pense la fusion, la réunion de l'utile propre et de l'utile commun, la possibilité pour tout homme, en cherchant ce qui lui est véritablement utile, de contribuer au bien général.
Bentham, quand il formalise la définition qu'il donne de l'utilité et par extension de l'utilitarisme, s'inscrit bien sûr dans une tradition philosophique qui est habituée à parler du plaisir, du bonheur privé, du bonheur public et de leur articulation. C'est la grande question politique et morale du XVIIIe siècle. Donc si Bentham cite très peu Spinoza, pas du tout d'ailleurs à ma connaissance, il est quand même directement dans ces problématiques qui ont été travaillées par tout un XVIIIe siècle avant lui, et bien sûr par l'Antiquité grecque bien avant.
Alors, il y a le 18e, le 17e. Effectivement, le 18e, disons, le résultat des Lumières, ou les critiques de la philosophie des Lumières, Bentham, rappelons-le, est à mi-chemin, enfin, est enjambe deux siècles, 18e et 19e, hein, 1748-1832. C'est ce qu'on appelle le fondateur de l'utilitarisme. Et donc, il pose la question de l'utilité. La question est de savoir si l'utilité chez Bentham prend la place de toutes les valeurs. Est le lieu tenant de toutes les valeurs, ou si, et qu'elle est au risque de les satelliser, de les asservir, de les ramener à la vacuité constitutive des valeurs absolues, ou bien de savoir si l'utilité détruit finalement les valeurs. Qu'est-ce que l'utilité ? Est-ce que l'utilité est une valeur comme telle, qui surmonte toutes les valeurs, qui permet de les expliquer, ou est-ce que l'utilité c'est le grand secret cynique du monde où toutes les valeurs trouvent leur origine mesquine, finalement.
Quand on parle d'utilité en France et en français, on a tout de suite à l'esprit quelque chose de connoté négativement, quelque chose de bassement utilitaire, quelque chose qui serait la satisfaction immédiate de mon plaisir égoïste et absolu au mépris de toutes les valeurs communes. Ça n'est absolument pas le sens que Bentham donne à cette formule. Lui, quand il parle d'utilité, il ne parle pas d'une valeur. Ce n'est pas une valeur, ce n'est pas une fin en soi, l'utilité. L'utilité, c'est une méthode. Une méthode qui va servir à clarifier les discussions morales, politiques, sur toutes les questions. Qui va permettre à chacun d'objectiver sa propre sensation, d'objectiver ses objectifs, même si ce n'est pas très joli, et d'en faire quelque chose qui puisse être discuté, mis en commun. En mesurant l'utile, en me référant systématiquement au plaisir provoqué par telle action, à la douleur que risque de provoquer telle action, j'ouvre le débat. Je permets que ces valeurs soient négociées et discutées.
En somme, l'utile permet de rendre commensurables des expériences individuelles singulières. Est-ce qu'on peut dire ça ? Vous éprouvez des choses, j'en éprouve d'autres. Il y a entre ce que vous éprouvez et que j'éprouve un abîme dans la mesure où vous n'êtes pas moi et réciproquement. Est-ce que grâce à l'utile, par la grille de l'utile, finalement, nous établissons une unité de mesure qui permet de quantifier, comparer, discuter de ce que nous éprouvons respectivement ?
C'est une unité de mesure, mais... pour Bentham, et c'est quelque chose qu'il répétera à divers moments de sa vie, quasiment dans tous ses écrits, chaque individu est le meilleur juge de ses propres intérêts. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de juger, de quantifier, de mesurer, de comparer le bonheur de chacun, le bonheur de quelqu'un et le bonheur de quelqu'un d'autre, le bonheur de Paul, le bonheur de Pierre. Il s'agira de permettre à Pierre et à Paul de discuter de ce qui leur importe. Et qu'est-ce qui importe à un individu ? C'est avant tout, pour Bentham, le plaisir qu'il ressent et la douleur à laquelle il s'expose.
Qu'est-ce que le bonheur ? C'est la possession du plaisir avec exemption de peine. Il est proportionné à la somme des plaisirs goûtés et des peines évitées. Et qu'est-ce que la vertu ? C'est ce qui contribue le plus au bonheur, ce qui maximise les plaisirs et minimise les peines. Le vice, au contraire, c'est ce qui diminue le bonheur et contribue au malheur. La première loi de notre nature, c'est de désirer notre propre bonheur. Les voix réunies de la prudence et de la bienveillance effective se font entendre et nous disent « Travaillez au bonheur des autres, cherchez votre propre bonheur dans le bonheur d'autrui. » La prudence, dans le langage ordinaire, est l'adaptation des moyens à une fin donnée. En morale, cette fin, c'est le bonheur. Les objets sur lesquels doit s'exercer la prudence sont nous-mêmes et autrui. Nous-mêmes comme instrument, autrui comme instrument aussi de notre propre félicité. L'objet de tout être rationnel, c'est d'obtenir pour lui-même la plus grande somme de bonheur. Emmanuel Dechamps est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance, ce lundi, au commencement d'une semaine sur l'utilitarisme, et nous commençons par la source de l'utilitarisme, c'est-à-dire Jérémy Bentham. L'extrait que je viens de lire est issu de sa déontologie, ou science de la morale, Emmanuel Duchamp. Il y a quelque chose, quand on a une appréhension presque phénoménologique des textes de Bentham, c'est-à-dire que on les découvre, on n'en a qu'une connaissance à peu près standard, et puis on découvre ces textes. Voilà un homme qui parle de bonheur, et qui pourtant le fait avec, ou en tout cas des textes duquel ressort une impression de grande tristesse, au fond. Il y a quelque chose d'extraordinairement glacé, glaçant, de froid dans cette façon qu'il a d'envisager le bonheur. Qu'en dites-vous ?
Bentham ne se prononce pas, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le contenu du bonheur, ce qui peut apparaître à chacun comme source de plaisir ou source de douleur. Donc c'est pas un écrivain du bonheur, c'est pas son rôle de décrire ou d'imposer une forme de bonheur ou la façon d'y arriver. Il le fait sur le plan politique. Bentham, par sa formation, qui est celle d'un juriste, et par son ambition, qui est celle de réformer la morale, d'accord, mais également et surtout peut-être la législation des différents pays du monde, n'a pas le ton du prêcheur, ni de celui qui cherche à convertir.
Ni de l'écrivain.
Ni de l'écrivain, d'ailleurs, c'est pas du tout un romantique, Bentham. Hein. C'est plutôt, vous avez parlé de la grande amplitude de sa vie. Il est né, comme vous l'avez rappelé, en 1748 et mort en 1832. Il aurait pu céder aux sirènes du romantisme, du pré-romantisme, mais c'est quelqu'un qui est fortement ancré dans le rationalisme des Lumières et qui refusera toutes ces manifestations de sensibilité. Même pour Bentham, la sensibilité, la passion sont des pièges qui empêchent à l'individu d'examiner rationnellement la source de son bonheur et ce qui risque de lui causer de la douleur.
Est-ce qu'il distingue la rationalité et les passions, ou est-ce qu'il fait de la rationalité, j'en reviens à Spinoza, une passion en elle-même, une passion active, mais une passion en elle-même ?
C'est pas tellement comme ça que Bentham poserait la question. Il parle pas beaucoup des passions, c'est un vocabulaire qui disparaît quasiment de ses écrits, parce que justement, lui tient à une vision de l'individu comme un être rationnel qui est capable de maîtriser ses passions, ou s'il ne l'est pas, doit l'apprendre. C'est pour ça que dans le calcul d'utilité, et qui n'est pas simplement une phrase ou un effet de langage, l'utilité, c'est aussi, pour Bentham, quelque chose qui doit s'apprendre et quelque chose qui doit se vivre au quotidien. C'est-à-dire que si les individus naturellement, et ça ressortait dans l'extrait que vous avez lu, ont tendance plutôt à préférer, à rechercher le plaisir et à éviter la douleur, rechercher les plaisirs qui nous amèneront d'autres plaisirs, rechercher les plaisirs durables est quelque chose qui dépend d'une hygiène de vie. C'est quelque chose qui s'apprend.
Et qu'en est-il dans ces conditions ? Que dit-il d'une douleur qui procure un plaisir ? Dans quelle mesure Bentham se donne-t-il les moyens de penser le plaisir auquel on parvient par la douleur, ou la douleur à laquelle aboutit la quête exclusive du plaisir ? Au fond, est-ce que c'est l'addition de plaisir qui produit la plus grande somme de plaisir, ou est-ce qu'il y a une sorte de maîtrise à entretenir avec son propre plaisir et une façon peut-être de le mettre à distance pour ne pas l'étouffer sous lui-même, finalement, comme on noirait un moteur ou... Que dit-il finalement de ces paradoxes d'un plaisir qui s'obtient par la douleur, d'une douleur qui est le résultat de trop de plaisir ?
Ce ne sont pas des paradoxes qui tiennent très longtemps quand on regarde le comportement des individus, le vôtre, le mien. Chacun sait que, et c'est quelque chose de très intuitif, et il y a quelque chose d'intuitif quand même chez Bentham dans la perception de ce qu'est le plaisir et de ce qu'est la douleur. Mon plaisir est peut-être... de boire toute la soirée, mon plaisir est peut-être de me droguer. Ça, c'est mon plaisir immédiat. Mon plaisir du lendemain sera peut-être de n'avoir pas bu toute la soirée, de m'être droguée plus modérément, par exemple.
Mais l'hypothèse selon laquelle la douleur procure un plaisir immédiat, Emmanuel Duchamp, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plaisir, il y a des êtres pour qui, si l'on envisage le plaisir ou la douleur sous l'angle d'une neutralité axiologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de phénomènes moraux, il n'y a qu'une interprétation morale des phénomènes, il y a du plaisir, il y a de la douleur, et il y a des gens qui jouissent de souffrir. Qu'est-ce que Bentham dit ça ? Mais qui alors, jouissent immédiatement de la douleur.
Bentham distingue deux niveaux différents. D'abord, mon propre plaisir, qui est le mien, qui ne regarde que moi, qui n'a de conséquences que pour mon bonheur, et pour lequel je reste entièrement maître. Ce plaisir-là, ça peut être celui de m'infliger de la douleur pour ressentir un plaisir. C'est un plaisir qui n'intéresse que moi. Ce que Bentham, en tant que moraliste et en tant que législateur, cherche à penser, ce qui le préoccupe, ça n'est pas tant mon plaisir individuel qui ne regarde que moi en tant qu'individu, que les actions ou le plaisir et la douleur que moi en tant qu'individu je peux causer à quelqu'un d'autre. Et c'est là que le législateur va intervenir. Ça se voit par exemple très bien dans le traitement qu'il fait de la question de l'homosexualité. L'homosexualité est à l'époque de Bentham un délit pénal, en Grande-Bretagne à l'époque, qui est encore passible de la pendaison. Et ça, on le sait, c'est très bien connu. On sait qu'Oscar Wilde en fera les frais bien plus tard, à la fin du 19e siècle.
On renvoie l'auditeur à De Profundis, l'un des plus beaux textes d'Oscar Wilde, et des plus tristes d'ailleurs, écrit depuis la prison où il a été enfermé pour homosexualité. Ouais.
Pour Bentham, l'homosexualité est un cas d'école, puisque elle n'a de conséquences que pour l'individu, que pour les deux individus qui s'y livrent de manière consentie, et non pas de conséquences ni bonnes ni mauvaises sur la société en tant que telle. Donc Bentham, dans des écrits qui ne seront pas publiés à l'époque, mais qui l'ont été à notre époque, se prononce pour la dépénalisation de l'homosexualité, mais aussi pour celle du suicide, par exemple. De tous ces archaïsmes où la loi essaye de se mêler de ce qui relève des choix personnels de chacun,
c'est-à-dire
qui n'engage que l'individu.
Où la morale contamine la loi.
Oui.
On peut dire où la morale contamine la loi. De ce point de vue, l'utilitarisme est une machine à séparer la morale du droit. Et le juriste qu'il est l'illustre par sa propre trajectoire, Emmanuel Dechamp.
Oui, effectivement. Il y a un double mouvement chez Bentham. D'abord, débarrasser le droit des mauvaises morales, des morales pernicieuses, des morales qui ne sont pas fondées sur l'utilité.
C'est-à-dire, ce qu'il appelle les mauvaises morales, il ne fait pas de la morale lui-même quand il dit ça. Hein. Il parle de morale qui ne repose pas sur le principe d'utilité.
Alors Bentham a
Est-ce que ça veut dire que le principe d'utilité est bon en lui-même ?
Ce n'est pas le principe d'utilité qui est bon en lui-même, c'est le principe d'utilité qui guide vers le bonheur. Mmh. Ça, c'est des choses qui sont très claires. Quand Bentham s'attaque au moral traditionnel ou au moraliste, il a deux cibles principales en vue. La première, c'est cette école qui est florissante au XVIIIe siècle, au moment où il écrit, et qui est encore extrêmement importante en Grande-Bretagne et dans les pays occidentaux en XIXe, qui est celle du sens commun. Donc, celle qui pense qu'il existe dans les individus une capacité qui serait peut-être innée à distinguer ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Bentham s'oppose à ça, il appelle ça une morale qu'il appelle de l'ipsédixitisme, c'est-à-dire une morale où chaque individu, sous couvert d'universalité, imposerait ses propres préférences.
C'est la façon qu'il a de congédier le sentiment d'évidence, la clarté cartésienne. Descartes fait de la clarté l'indice de la vérité. Bentham aura beau jeu, d'une certaine manière, de lui répondre que la clarté n'est que l'alibi d'une opinion qui se prend pour la vérité, ou le sentiment d'évidence qui accompagne telle ou telle déclaration. C'est une façon, au fond, dogmatique de faire passer pour une loi universelle ce qui relève d'une certitude singulière.
Exactement. Et ça, c'est un point sur lequel il faudra revenir, parce que Bentham fait très attention, il est très sensible au rapport de pouvoir, à tout ce qui peut, dans le langage, dans la société, faire qu'un individu ne sera plus à l'écoute de son propre intérêt, sera incapable de le distinguer, mais au contraire, adoptera les intérêts d'autrui. Et il y a tout un jeu de pouvoir dans la définition et la négociation des intérêts auxquels Bentham est tout à fait sensible.
On peut se servir de Bentham pour critiquer l'argument d'autorité.
Ah mais bien sûr, l'utilitarisme est avant tout une philosophie critique. Cet argument d'autorité, Bentham le localise du côté des théoriciens du sens commun, mais également, et peut-être surtout, du côté de ceux qui se réclament d'un droit naturel, de la nature. Sans parler des théologiens qui sont aussi évidemment emblématiques de cet argument d'autorité.
Mais à la limite, qui sont des ennemis si évidents que ce n'est pas ceux sur lesquels il faut s'arrêter ici. C'est-à-dire c'est plutôt ce qu'ils deviennent quand ils se transforment en théoriciens du droit naturel ou en moralistes qui maintiennent un certain nombre de valeurs absolues non corrélées à une théologie mais qui au fond conservent le système théologique.
Oui, tout à fait.
Donc les vrais ennemis de Bentham, ce sont des ennemis plus subtils que les théologiens rudimentaires auxquels il pourrait s'adresser à son époque.
Oui, cela dit, on peut parler aujourd'hui de théologie rudimentaire. Au 18e, dans la société dans laquelle vit Bentham, c'est quand même une société qui est très largement guidée par l'Église, par les valeurs religieuses et par l'alliance politique de l'Église d'Angleterre et du système constitutionnel. Donc c'est pas du tout... quelque chose qui l'évacue rapidement ou balaye du revers de la main. Ça reste un adversaire central.
Donc, en tout cas, Bentham, on peut s'en servir comme pour élaborer une critique de l'argument d'autorité, des idées reçues, des évidences qui s'imposent à nous de façon implicite. Est-ce que, de ce point de vue, quel est le rapport dans ces conditions de Bentham avec la notion de coutume ou de tradition ? Que reste-t-il d'une tradition quand on critique l'argument d'autorité et les évidences implicites qui structurent une société ?
Alors, la tradition est le premier ennemi de Bentham, notamment dans le champ juridique. Son premier texte publié s'appelle sur le fragment sur le gouvernement. C'est un texte qu'il a publié en 1776 et qui critique les arguments du grand juriste William Blackstone, qui est à cette époque l'autorité sur le droit anglais.
Il est certain, dit Bentham dans Déontologie, il est certain que tout homme agit en vue de son propre intérêt. Ce n'est pas qu'il voit toujours son intérêt là où il est véritablement, car par là, il obtiendrait la plus grande somme de bien-être possible. Et si chaque homme, agissant avec connaissance de cause dans son intérêt individuel, obtenait la plus grande somme de bonheur possible, alors l'humanité arriverait à la suprême félicité, et le but de toute morale, le bonheur universel, serait atteint. La tâche du moraliste éclairé et de démontrer qu'un acte immoral est un faux calcul de l'intérêt personnel, et que l'homme vicieux fait une estimation erronée des plaisirs et des peines. S'il n'a fait cela, il n'a rien fait. Car, comme nous l'avons dit plus haut, il est dans la nature des choses qu'un homme s'efforce d'obtenir ce qu'il croit devoir lui procurer la plus grande somme de jouissance. En écrivant cet ouvrage, nous avons pour objet le bonheur de l'humanité, le bonheur de chaque homme en particulier, ton bonheur, lecteur, et celui de tous les hommes.
Qu'est-ce qu'il faut pour être heureux ? Faut une chose.
Qu'est-ce qu'il faut pour être heureux ?
Faut d'abord être amoureux. Mais quand on est amoureux, faut deux choses.
Mais quand on est amoureux,
faut deux choses pour être heureux.
Qu'est-ce qu'il faut pour être heureux ?
La jeunesse et la fortune, par bonheur, vous savez l'une, et comme j'ai l'autre, on a les deux.
Voilà ce qu'il faut pour être heureux.
Qu'est-ce qu'il faut pour être heureux ?
Faut une chose.
Qu'est-ce qu'il faut pour être heureux ?
Faut d'abord être amoureux.
Mais quand on est amoureux. Faut autre chose pour être heureux.
Qu'est-ce qu'il faut pour être heureux ?
Ça ne peut pas se dire à sa honte. J'espère que vous savez l'autre. Et comme j'ai l'une, on a les deux.
Place qu'il faut pour être heureux.
Arletty Reynaldo-Hahn, un texte de Sacha Guitry. Qu'est-ce qu'il faut pour être heureux ? Sacha Guitry se reconnaît même quand il n'y a pas sa voix. Emmanuel Dechamps, on parle de Bentham aujourd'hui, et je viens de lire un extrait de Déontologie, dans lequel Bentham parle du bonheur universel, donc comme d'un but. Alors, il dit, la tâche du moraliste, c'est de démontrer qu'un acte immoral est un faux calcul de l'intérêt personnel. Formidable, parce qu'effectivement, les imprécations morales devant un criminel sont en général de peu d'effet. Quand on dit « c'est pas bien », ça n'a jamais dissuadé en général les gens de commettre le forfait qu'on dénonce. Et après coup, on peut déplorer finalement le monde, déposer un anathème sur le monde, déplorer qu'il ne soit pas à la hauteur ou que les attitudes ne soient pas à la hauteur des préceptes de la morale. Mais la morale est bien souvent un non-calcul de l'impuissance face à des crimes qui se moquent de ces injonctions. Donc on peut dire Bentham, calculisant, arithmétisant les crimes, montrant que c'est une erreur plus qu'un péché d'être vicieux, a effectivement, de ce point de vue, peut-être plus d'efficacité. Néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas en sous-main une certaine forme de morale dans l'idée qu'il faut malgré tout démontrer au criminel qu'il fait une estimation erronée? Est-ce qu'au fond, il n'y a pas chez Bentham des principes, je pense notamment à l'idée de bonheur, des principes qui gouvernent l'ambition apparemment neutre d'arithmétiser les plaisirs et les peines?
Alors, d'abord, je voudrais revenir à la citation que vous avez lue. C'est tiré d'un texte, donc la déontologie, comme vous l'avez indiqué, qui pose problème sur le plan de l'établissement du texte.
Vous voulez dire que c'est un texte apocryphe ?
Ah non, c'est certainement pas un texte apocryphe. Bentham avait l'habitude, surtout et principalement à la fin de sa vie, de confier ses manuscrits à un certain nombre d'amis, de disciples, quelle que soit la façon dont on veut les appeler. Et il se désintéressait complètement de l'usage éditorial qui pouvait en être fait, du moins en apparence. Ça, le texte de la déontologie n'est pas paru du vivant de Bentham. Il a été édité dans la version anglaise en 1833 par John Byring. John Byring, c'est l'exécuteur testamentaire de Bentham et c'est quelqu'un qui est resté à la postérité, pas uniquement comme exécuteur testamentaire et éditeur de la grande édition des Collected Works de Bentham. C'est quelqu'un qui est resté à la postérité parce qu'il a créé un hymne qui est encore chanté aujourd'hui dans toutes les églises protestantes anglaises. John Byring, c'est un unitarien. C'est quelqu'un, donc les unitariens, on ne va pas rentrer dans les détails des différentes sectes protestantes à l'intérieur de l'église anglicane.
Non, mais les unitariens, c'est important.
Mais les unitariens, c'est des gens qui pensent que, qui sont en dissidence avec l'église d'Angleterre traditionnelle, et qui pense...
Est déjà en dissidence avec l'Église tout court. Allez-y, oui.
Et qui pense notamment, et c'est cet aspect que je voudrais mettre en valeur, que Dieu s'adresse à l'individu par le biais de ses facultés rationnelles. En fait, il y a toute une veine de l'utilitarisme dont on n'a pas encore parlé, qui est très puissante au XVIIIe siècle, qui est un utilitarisme théologique. Qui voit dans l'utilité et dans les plaisirs et les douleurs, les moyens que Dieu a mis à la disposition des hommes pour les guider vers le plaisir, le bonheur suprême.
On en revient, pardonnez-moi, à une option quasi spinoziste, en l'occurrence.
Dieu, oui, mais c'est celle que rejette Bentham, dès l'origine.
D'accord.
Et c'est ça qu'il faut bien avoir à l'esprit. Donc quand John Byring va éditer les textes de Bentham sur la déontologie, il va se saisir de différents fragments sur la déontologie, donc sur la morale, qui existe dans l'œuvre de Bentham. Des fragments d'époques différentes, écrits pour des fins différentes.
Donc c'est quasiment une opération de falsification, ça. C'est-à-dire que le texte qu'on connaît sous le nom de déontologie a donc été réuni par quelqu'un dont les options idéologiques ou dont l'utilitarisme est aux antipodes de celui de Bentham.
Oui, mais c'était aussi un ami de Bentham, celui qu'il a choisi comme exécuteur testamentaire. Donc c'est plus compliqué que ça. Mm-hmm. Voilà. Mais la question... Mais ça, c'est un texte qui, plus que d'autres, pose problème comme établissement de la philosophie de Bentham.
Et quand il se désigne lui-même comme moraliste, est-ce que ça c'est de Bentham ?
Oui, bien sûr. Ce que je voulais dire également, c'est que Bentham, dans les écrits qui sont dans le système de pensée et dans le système politique qu'il essaye de dessiner, ne comprend jamais l'action du moraliste comme distincte de celle du législateur. Il y a deux façons d'intervenir sur le comportement des gens, soit en leur montrant, en les guidant, selon l'extrait que vous avez lu, vers l'utilité, en leur apprenant à distinguer leur utilité immédiate de l'utilité future, en leur apprenant à distinguer leur utilité égoïste de celle qui contribuera au bien de la société, mais tous ces aspects moraux ne peuvent pas se comprendre, et ça c'est quelque chose sur lequel il faut véritablement insister, sans la dimension politique, le rôle du législateur. C'est avant tout et de manière primordiale le rôle du législateur de montrer par la loi ce qu'un individu a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. C'est au législateur de définir une mécanique juridique qui permette d'orienter les actions de chacun vers le bonheur de tous.
Qu'est-ce que le législateur ? Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Ce que le législateur doit avoir à l'esprit quand il compose la loi, c'est le bonheur de tous.
Bien sûr.
Ou le bonheur du plus grand nombre. C'est pas le même. Parce que le bonheur du plus grand nombre peut se faire dans un calcul un peu cynique, et on va en parler cette semaine d'ailleurs, au détriment de certains. Sacrifier une minorité pour le bonheur du plus grand nombre, c'est un calcul qui peut s'opérer. Si c'est le bonheur de tous, d'une certaine manière, on est dans l'utopie et presque le sacrifice de tous à l'idée d'un bonheur qu'on leur imposerait. Donc, est-ce qu'on est dans le bonheur de tous, le bonheur du plus grand nombre ?
Pour répondre à cette question, il faut regarder les processus strictement politiques auquel Bentham s'attache. Et Bentham est un grand penseur de la démocratie. La démocratie, et on peut dire en utilisant une expression qui refait surface aujourd'hui, de la démocratie délibérative. Pour Bentham, il existe dans le processus démocratique, il doit exister des dispositifs qui permettent la définition et la représentation des intérêts de chacun. Ce qui, à travers un système de démocratie représentative, donc un système électoral dans lequel la majorité des individus adultes ont le droit de vote, et ça c'est un point qu'on pourra éclaircir un petit peu après, un système à travers lequel les intérêts de chacun auront voix au chapitre par le débat public, par le forum, la liberté de la presse, mais aussi par le vote, par le suffrage. Cette définition des intérêts va tendre à faire triompher les intérêts du plus grand nombre qui sont appelés à devenir les intérêts de tous.
Mais donc il y a une bascule qui s'opère de l'intérêt de chacun à l'intérêt de tous. À aucun moment l'intérêt de tous est pensé au détriment des intérêts de certains. Par exemple, c'est en général l'idée qu'on se fait de l'utilitarisme, justement. On peut en sacrifier quelques-uns si on en sauve le plus grand nombre.
On n'est jamais dans des situations comme ça. Et quand
on est toujours dans des situations comme ça. Combien de fois dans la vie se pose la question de savoir, je parle même en termes politiques ou en termes plus privés, combien de fois nous trouvons-nous dans la situation d'avoir à choisir entre le salut d'un seul et le salut de plusieurs. Enfin, le choix de Sophie, c'est quand même un classique de l'existence. Combien de fois un homme d'État, par exemple, confronté à une menace terroriste, qui se demande s'il doit ou non négocier avec des terroristes au péril ensuite des autres actions éventuelles ou bien sacrifier les otages. Bref, c'est une question qui revient en permanence.
Oui, je suis d'accord avec ça. C'est une question qui est importante et pour laquelle on a besoin d'avoir un guide. Cela dit, ce que dit Bentham, c'est que ces questions-là ne peuvent se régler qu'à l'intérieur d'un débat public organisé et structuré. Mmh. Et non pas, c'est pas la responsabilité de l'individu propre, alors du président, de celui qui a le pouvoir à un moment, et qu'il doit y avoir des mécanismes qui assurent que les décisions qui sont prises par les personnes au pouvoir correspondent à l'intérêt du plus grand nombre. Le mécanisme...
Donc c'est l'intérêt du plus grand nombre, c'est pas l'intérêt de tous.
Non, c'est pas l'intérêt de tous, car il existe des groupes, des individus dont l'intérêt est opposé au bonheur du plus grand nombre. Et là, Bentham a quelque chose de très concret en tête. Il parle notamment du pouvoir de l'aristocratie dans la vie politique britannique au moment où il écrit, donc jusqu'en 1832.
C'est-à-dire ?
Au moment où Bentham écrit, le système politique britannique est celui qui est issu de la glorieuse révolution de la fin du XVIIe siècle, de 1689. Mais c'est un système qui, bien qu'il ait fait l'admiration des pays d'Europe et du reste du monde pendant tout le XVIIIe siècle, est arrivé en bout de course. C'est un système qui est miné par la corruption, qui est miné par le non-professionnalisme des individus qui sont en place, notamment à travers un système de pensions, de rentes et d'offices publics qui sont donnés aux rejetons des plus grandes familles. Et c'est contre cette confiscation-là du pouvoir que Bentham s'érige.
Est-ce qu'avec Bentham, on est à la source de ce que Tocqueville pourra peut-être identifier plus tard comme un effet de la concurrence ? C'est-à-dire, Tocqueville lit l'égalité ou le désir d'égalité entre les hommes comme un effet de l'acquisition des droits. En somme, et à cet égard, comme la source même de la concurrence. Les individus ne se feraient pas concurrence s'ils n'étaient pas égaux. Il y a chez Tocqueville une critique de l'égalitarisme ou du désir d'égalité dans lequel il repère une forme supérieure finalement d'égoïsme individuel. C'est-à-dire sous l'alibi de l'égalité, les uns et les autres font d'abord le calcul de leur propre intérêt. Est-ce qu'on a chez Bentham quelque chose qui serait du même ordre, finalement une identification de l'égalité ou une sorte de généalogie d'une valeur prétendument absolue ouvertement noble, une généalogie presque cynique.
Alors la question de l'égalité chez Bentham, elle est un peu problématique. Pour Bentham, l'égalité...
Il s'en méfie, non,
de l'égalité. Non, l'égalité est une des composantes du bonheur. Ce qu'il veut dire, ça n'est pas qu'il faut vouloir une société où règne l'égalité de statut, de compétences, de possession. D'accord, et surtout pas sur le plan de la propriété individuelle, mais que ce qu'il indique, c'est qu'une société qui est minée par de grandes inégalités est forcément, de manière structurelle, néfaste pour le bonheur du plus grand nombre. Donc il faut tendre vers l'égalité, mais ça n'est absolument pas un processus d'égalitarisme ou de nivellement.
Donc il se méfie de l'égalité.
Il se méfie de l'égalité en tant que valeur, mais l'égalité reste une des composantes du bonheur. En fait, on a dit auparavant que le législateur ne pouvait pas, n'était pas en mesure d'identifier ce qui constituait l'intérêt de chacun, que chaque individu restait le meilleur juge de ses propres intérêts. Cela dit, le législateur a quand même un guide que Bentham désigne sous le terme de valeur subsidiaire de l'utilité, qui sont au nombre de quatre, c'est-à-dire l'abondance, la subsistance, l'égalité et la sécurité. C'est une sorte de minimum qui fait de minimum qui, s'il n'est pas assuré, met de manière plus ou moins objective l'individu dans une situation de malheur. Ne pas avoir de quoi subsister, ne pas avoir donc la subsistance, ne pas avoir juste un tout petit peu plus, être dans ce qu'il appelle une situation d'abondance. Être dans une situation d'inégalité flagrante et également ne pas être en mesure d'assurer donc ce qu'il appelle la sécurité ou sûreté, selon les différentes traductions qu'on peut faire de security, c'est-à-dire être dans un système qui est tellement instable, tellement soumis à des mutations, à des forces contradictoires, que ça l'empêcherait de calculer son intérêt même à court terme.
Mais en tout état de cause, ce qu'on peut demander à l'homme, ça n'est jamais que le calcul de son intérêt. Au fond, l'enjeu est de construire une arithmétique au terme de laquelle le calcul de l'intérêt individuel culmine dans l'intérêt général. Mais ce qu'on demande à tout homme... Alors, j'en reviens à la première question, finalement, et au début de cette conversation avec vous, Emmanuel Deschamps, sur le statut de l'utile. L'utile est-il... vous avez dit l'utile est une méthode. Est-ce que en faisant une méthode, il dit ceci, hein, c'est un instrument de direction, une direction qui permet de désigner le chemin le plus propre à être suivi en toute occasion, dans la vie publique comme dans la vie privée, à être suivi par chaque individu qui agit selon sa capacité privée ou individuelle, comme membre de la communauté entière, pour son propre bénéfice seulement, ou selon sa capacité publique, au bénéfice des autres, à titre de membre de la partie gouvernante de la communauté, dans l'exercice des pouvoirs, etc. etc. Qu'est-ce qui distingue l'utile ainsi pensé, ainsi conçu, d'une valeur, proprement dite, et peut-être de la seule valeur ? Et question subsidiaire, quelle place faire dans ces conditions à l'argent ?
Alors l'argent, je vais commencer par cet aspect-là de votre question. L'argent est une mesure du bonheur, une mesure de l'utile. L'argent n'est pas le bonheur ou ne garantit pas le bonheur en lui-même, mais l'argent peut permettre de faciliter le calcul d'utilité en permettant de hiérarchiser les en permettant à chacun de hiérarchiser les différents plaisirs. C'est-à-dire, alors, pour le calcul d'utilité, c'est quelque chose auquel Bentham ne se livre pas vraiment. Dans aucun de ses textes publiés, Bentham ne fait de calcul d'utilité.
Il l'appelle de ses voeux, finalement. On est dans une prolégomène à tout calcul d'utilité future.
Oui, et puis surtout, il pense que chaque individu est en mesure, parce qu'il est humain, de faire lui-même le calcul de son utilité, avec quelques principes qui doivent être rappelés par le moraliste et par le législateur. Mais quand il le fait, alors ça on le voit dans des manuscrits par exemple, Bentham a tendance parfois à tenter de quantifier les plaisirs et les douleurs à l'aide de l'argent. Mais c'est juste un exemple. Mmh. Et c'est quelque chose qui a le mérite d'être parlant pour beaucoup de gens.
Alors oui, c'est parlant pour beaucoup de gens, c'est surtout parlant pour la partie grégaire qui est en chacun de nous, parce que c'est parlant pour la partie, c'est parlant pour la partie de nous-mêmes qui a besoin de mesures communes, qui vit en société. Bentham est incontestablement le penseur de la vie en société, ou de la société, d'un espace commun, de la partie de nous-mêmes, de vous, de moi, qui vit en société, ce qui peut inclure notre identité, par exemple notre identité personnelle, qui est également une identité sociale, ce qui peut inclure l'extension du domaine de la surface sociale, ce qui inclut tout ce qui va avec la vie en commun, la vie avec les autres. Le problème, enfin il y en a plusieurs, mais le problème c'est peut-être d'appliquer cette échelle-là, cette grille-là, à l'existence individuelle. Que reste-t-il ? Qu'est-ce que Bentham, ou qu'est-ce qu'un benthamien, ou un lecteur de Bentham peut répondre à l'option, à l'évidence, je mets le mot ici entre guillemets, selon laquelle il y a de l'incantifiable ? On ne peut pas mesurer un sentiment, on ne peut pas mesurer un attachement, on ne peut pas comparer des sentiments entre eux. Il y a des éléments de l'existence et qui font le sel, la saveur de l'existence, qui en eux-mêmes sont d'une étoffe qu'aucune arithmétique ne peut réduire à ses unités de mesure. Qu'est-ce que Bentham répond à cela ? Et est-ce qu'une telle remarque est une objection à la construction d'une arithmétique collective ? Ou est-ce que tout simplement il renvoie ça à la sphère de l'intime, du privé, et qu'au fond il s'en fiche ?
Je crois que ça n'est pas tellement le propos. Évidemment qu'il y a de l'inquantifiable, mais ce n'est pas ça qui intéresse Bentham. Ce qui intéresse Bentham, c'est justement le quantifiable.
Oui, mais est-ce que l'inquantifiable n'est pas justement prenez l'exemple d'un système totalitaire, l'élément inquantifiable, la partie d'un individu qu'on ne peut pas résoudre, qu'on ne peut pas résorber, qu'on ne peut pas numériser ou statistiser ou statisticiser, cette partie-là est un point de résistance à une tyrannie, par exemple.
Donc, mais une fois qu'on a parlé d'inquantifiable, où est-ce que ça nous mène ? Dans quelle manière ça peut faire progresser le débat public ? Est-ce que mon inquantifiable, ce que je chéris, ce qui est pour moi le plus important, ne vient pas se heurter directement à ce qui est pour vous le plus important et le plus personnel ? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut établir un terrain commun de discussion à partir de valeurs qui sont éminemment personnelles ?
Le simple fait, le constat des égards qu'on doit à ce qu'un autre a d'inquantifiable en lui-même, le simple fait que sa différence, pour le dire, pour employer des termes à la mode, ce qu'un autre peut avoir de différent et l'intérêt qu'on peut porter à ce qu'un autre peut avoir de différent, ou les égards qu'on lui témoigne, c'est déjà un élément du débat public. C'est déjà un élément d'un dialogue possible, d'un consensus possible, non ?
Bien sûr, c'est... Pour répondre à cette question-là, je voudrais juste préciser pourquoi Bentham, par exemple, et ça rejoint tout à fait votre question, est hostile à la notion de droit de l'homme. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Que sont les droits ? Pourquoi est-ce que... Et ça, c'est quelque chose qui nous choque énormément, mais qui a beaucoup choqué les contemporains également. Par exemple, Benjamin Constant, quand il lit Bentham, ce qu'il fait quand il est à Copé, est très choqué par ce refus de Bentham d'accepter les droits de l'homme.
Pourtant, il en faut beaucoup pour choquer Constant, mais allez-y. Voilà. Oui, allez-y.
Vous avez tout dit. Ce que Bentham reproche aux droits de l'homme, c'est de ne pas... en fixant un idéal, un absolu comme le but de la loi, de refuser de regarder précisément, de refuser de s'attacher à définir ce qui assure concrètement la protection de l'individu. Par exemple, quand il examine la Déclaration de l'homme et des droits de l'homme et du citoyen, ce qu'il fait en 1795, il les décrit comme des non-sens sur des échasses. D'accord ? Ce sont des non-sens sur des échasses parce qu'ils ne reposent sur aucun droit. Alors, pour comprendre le raisonnement de Bentham, il faut expliquer que que Bentham, en tant que dans sa philosophie juridique, explique qu'un droit n'est garanti. Je ne peux considérer qu'un droit ne m'est garanti que si la loi punit la personne qui m'a empêché de jouir de ce droit. À partir du moment où on pose un principe absolu, on s'empêche de regarder concrètement quels sont les actes et les actions qui mettent en péril l'individu. Par exemple, le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, pour Bentham est faux. C'est une pétition de principe. On peut souhaiter que les hommes naissent, vivent et demeurent libres et égaux en droit. Cela dit, n'importe quelle personne en Grande-Bretagne, en France, même après la Révolution, en 1795, qui regarde autour de lui, voit que les hommes ne naissent ni ne vivent libres et égaux en droit. Donc, pour Bentham, on n'est pas dans le juridique, là. On est dans les principes.
Ces principes peuvent exister,
mais le domaine du droit, le rôle du législateur, c'est de faire en sorte que la liberté de chacun soit protégée concrètement par des dispositions juridiques qui sont cohérentes avec les principes qu'on a posés.
Est-ce qu'on est dans la description ou est-ce qu'on est dans la normativité ? Est-ce qu'on produit des normes ou est-ce qu'on décrit des systèmes avec Bentham ? Est-ce qu'il décrit quelque chose ou est-ce qu'il propose quelque chose ? Il me semble qu'il y a toujours une tension, et on la retrouve d'ailleurs même chez Mill après, enfin on va parler de Stuart Mill, mais est-ce qu'on est dans la description ou est-ce qu'on est dans l'érection de, je mets le mot entre guillemets, hein, de valeurs, de normes finalement ? Est-ce que c'est normatif ? Est-ce que c'est descriptif ?
Bon là, vous entrez dans un grand débat qui est au cœur...
Il nous reste deux minutes
voilà,
pour
dans lequel on n'aura vraiment pas le temps de rentrer aujourd'hui, mais que vous pourrez
mais
peut-être poursuivre
demain. On peut dire en quoi c'est un grand débat, cela dit, c'est important.
C'est un grand débat parce qu'on a longtemps, enfin, où on oppose souvent l'aspect descriptif du principe d'utilité à son aspect normatif, comme vous venez de le faire. Pour Bentham, les deux vont ensemble, il n'y a
pas d'opposition. Est-ce qu'il dit c'est comme ça que ça marche ou est-ce qu'il dit c'est comme ça que ça doit marcher ?
Il dit les deux. Et ça, c'est le premier paragraphe de l'introduction au principe de morale et de législation est absolument clair sur ce point-là. C'est non seulement le moteur de manière évidente de chacune de nos actions, mais c'est aussi ce qui doit être. Et le but du législateur est de, une fois qu'il a identifié que ce principe est le même dans les deux branche que je viens d'évoquer, doit permettre à ce principe de prendre toute sa vigueur en unissant la description et l'action.
Dernier point, Emmanuel de Chambouillet, qu'on peut y répondre hein, quand même, vous le faites très bien, mais dernier point quand même, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de coercitif là-dedans ? Puisqu'il s'agit d'unir la description et la norme, de faire advenir ce qui est, au fond, ou de considérer que ce qui est, ou la façon dont ça fonctionne, est également la façon dont ça doit être. Quand Bentham critique les valeurs absolues, hein, les non-sens sur des échasses, formidable, la déconstruction des valeurs absolues qui s'imposerait, qui viendrait du ciel, qui tombant du ciel comme le ciel nous tomberait sur la tête, s'imposerait à tous les hommes ou prétendrait s'imposer à tous les hommes, quiconque critique cela, d'une certaine manière, affranchit l'homme des tutelles qu'il s'est mis lui-même sur la tête. Donc très bien. Néanmoins, qu'est-ce que Bentham fait, qu'est-ce que l'utilitarisme fait de celui qui pratique l'oblation finalement, qui est dans le sacrifice de lui-même en permanence, de sœur Teresa, enfin de mère Teresa et de sœur Emmanuel. Qu'est-ce que Bentham fait d'un marginal qui résolument, sans être lui-même, sans se flatter lui-même de son humilité, mais assume de vivre hors de tous les codes de la société. Qu'est-ce que Bentham fait de quelqu'un qui se fout de gagner de l'argent ?
Mais Bentham n'en fait rien, il n'a rien à en faire, ça n'est pas son propos.
Ça n'est pas son problème.
Non, ça n'est ni son problème ni son propos. Là, on est dans la sphère du choix individuel de chaque personne. Ce sur quoi je voudrais conclure, c'est l'importance chez Bentham de l'éducation. L'utilité, c'est pas quelque chose, et c'est peut-être par l'éducation qu'on comprend comment le normatif et le descriptif sont liés. L'utilité, c'est quelque chose d'instinctif, mais ça n'est pas que ça. Apprendre à calculer son intérêt, apprendre à l'identifier, le dégager des contraintes d'autrui, c'est être utilitariste. Et c'est ça qui va permettre, par des dispositifs d'éducation publique et privée auxquels Bentham réfléchit par ailleurs, de faire advenir une société dans laquelle l'intérêt de l'individu et l'intérêt du plus grand nombre seront identifiés.
Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities are Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found.
Voilà la chanson de Balou, hein. Il en faut peu pour être heureux. On est dans le livre de la jungle. C'est dans la jungle que l'éducation se pratique. En l'occurrence, c'est une éducation à l'épicurisme qui renvoie au fait que bah, il en faut peu pour être heureux. La déontologie politique ou la pensée constitutionnelle de Jérémy Bentham, c'est à la librairie de Rose et c'est de vous, Emmanuel Deschamps. On retrouve tout ça en ligne à la page des Nouveaux Chemins. Voilà, il est 10h50 sur France Culture. On passe de Bentham à Alain avec vous, Adèle. Bonjour.
Bonjour, Raphaël.
Alors donc, Alain, c'est une édition nouvelle, des voilà. Textes inédits.
Et vous avez fini sur l'éducation, eh bien ça tombe bien, puisqu'Alain est un des grands penseurs de l'éducation, des grands pédagogues du XXe siècle. Et là, l'occasion nous est donnée de nous en parler grâce à la publication de textes inédits chez Aubier. Bonjour Emmanuel Blondel.
Bonjour.
C'est à vous que l'on doit l'édition des trois textes inédits du philosophe Alain, donc Souvenirs sans égard, suivi de Traité des outils et 10 leçons d'astronomie. Trois textes qui paraissent, à premier abord, n'avoir aucun thème commun. Et en fait, on va voir que pas du tout, il y a vraiment une unité au sein de ce livre. Commençons par Souvenirs sans égard, puisque le Souvenirs sans égard est un texte qui a été écrit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1947. Alain a près de 80 ans. Et donc on s'attend à lire une autobiographie, une biographie en tout cas de sa propre vie. Et pourtant, il semble que dans ce texte-là, il soit surtout question de la République.
Oui, il est surtout question de la République. Je vous remercie de vous faire l'écho de cet ouvrage très particulier. Souvenirs sans égard, allons au cœur. Sans égard, pourquoi ? Comme il le dit à la fin des Souvenirs sans égard, c'est que la morale n'a pas d'égard. La question des Souvenirs sans égard, c'est la question « que dois-je faire ?». Et pour savoir ce qu'il faut faire, il faut penser l'essence de la République, l'essence du pouvoir, l'essence de l'éducation, ce qui sont les deux dernières parties des Souvenirs sans égard. Et c'est vrai qu'il ouvre cela par ce qui peut ressembler à une biographie, c'est-à-dire une relecture de sa propre vie d'éducateur, d'homme politique, de servant de la politique, de Socrate, si on veut, de la République, qui rassemble effectivement un tiers de l'ouvrage autour d'une espèce d'exercice jubilatoire, effectivement, de relecture, où il n'a d'égard ni pour lui-même ni pour les autres, mais où il vise justement à retracer à la fois son essence propre, l'essence des autres, et par là même l'essence de la République. C'est en cela, effectivement, qu'on a un ouvrage, y compris dans les deux annexes, entre guillemets, que nous avons ajoutées à ce texte de 1947, une unité de ton et d'intention qui est importante à faire sentir.
Alors, dans la préface de Souvenirs sans égard, dans la préface écrite par Alain lui-même, il affirme la volonté d'accorder beaucoup d'importance à ce qu'il appelle l'être des autres. Comment comprendre cette expression et en quoi est-ce qu'elle est essentielle pour comprendre la pensée d'Alain de la République elle-même ?
On peut commencer par la République. Quand on disait que la République, c'est le libre jeu des libertés dans leur antagonisme. Et le terme d'antagonisme, je crois que je l'ai repris dans la préface, est important parce que c'est cette confrontation, ce frottement des existences les uns aux autres, ce qui définit, selon Alain, en un terme hegélien qu'il retourne un peu, la dialectique réelle ou la sociologie réelle, comme il voudra. Ce choc des existences, cet entrelacement des existences, fait surgir la République et fait surgir la réalité, ce qu'est la réalité de toutes les existences particulières, c'est-à-dire l'être des autres. Il n'y a pas un être des autres qui existerait en deçà ou au-delà de ce frottement des existences. Les hommes adviennent à leur existence par cet entrechoquement. Alain est advenu à l'existence par un ensemble de circonstances qui l'ont rapproché, opposé, de façon très, très vive et souvent très conflictuelle à ses contemporains. Et c'est par là que se révèle effectivement conjointement son être propre, l'être des autres, et par là l'essence de la République, ce qu'il s'efforce de faire ressurgir à la fois dans ce texte. ce qui le rend un peu compliqué à suivre par moments.
Et comment est-ce qu'on relie ça, cet intérêt pour la République et donc cet intérêt pour la façon dont les différents êtres se rencontrent et s'entrechoquent dans leur liberté mutuelle, au thème de l'éducation lui-même ?
C'est que
les deux ne sont pas complètement dissociables, il me semble.
Pour aller à ce qui fait l'unité du livre directement, parce que ce thème de l'éducation est ce qui fait le plus facilement l'unité du livre, éduquer, c'est renvoyer justement au sentiment de la présence réelle de soi, des autres, du monde physique, du monde humain. Le monde physique, ça sera l'astronomie. Le monde humain, ça sera la réalité du travail qui s'appréhende par la méditation sur les outils, qui est une méditation sur ce que l'homme fait de sa force, de son effort, comment transformer l'effort en œuvre. Toute cette méditation, ce retour à l'élémentaire, à la pensée des forces qui organisent le monde, c'est cela qu'Alain veut promouvoir dans l'institution scolaire et à quoi il s'efforce, à quoi il s'est efforcé dans sa vie, alors de manière très, très biographique cette fois, par ses contributions en particulier aux efforts de l'école expérimentale de Saint-Germain-en-Laye, mais à quoi il s'efforce, et vous l'avez noté tout à l'heure quand on en parlait, même à l'intérieur de Souvenirs sans égard, en insérant une espèce d'esquisse de traité des outils.
Voilà, on trouve page 97 de cette édition, alors que Alain vient de raconter des souvenirs, des rencontres avec certaines personnes, il cite notamment Platon, on est à la fois dans les souvenirs et dans la philosophie, puis il écrit « Afin de ne pas tomber dans les généralités, je veux mettre ici un petit cours de mécanique destiné aux enfants. » Par les machines simples, les plus difficiles à saisir sont la roue, le levier, le cric, la grue et le treuil. Je commence sans préambule.
Oui, sans préambule. Effectivement, il faut dire que l'écriture d'Alain à cet âge est extrêmement libre. Souvenirs sans égard, d'ailleurs, ne sera pas publié. On peut se demander pourquoi, mais entre autres parce qu'au fond, c'est un ouvrage très difficile à suivre, non seulement à saisir dans son unité, mais à suivre dans le détail. Et là, effectivement, comme il est très libre, il commence un petit traité, alors qu'il en a déjà rédigé un, qui figure effectivement dans ce volume en annexe, 20 ans auparavant. Mais il le commence... Alors c'est très paradoxal parce que cette pensée de l'élémentaire, c'est une idée très compliquée chez Alain. Quand je cherchais des exemples pour illustrer de notes cet ouvrage, j'étais allé chercher dans son œuvre des exemples de ce retour à l'élémentaire. C'est vrai que les outils sont un essai assez particulier et assez clair, parce que là on a une impression d'élémentaire. Quoi qu'Alain dise lui-même, je n'ai pas tout à fait été jusqu'à l'élémentaire quand je remonte justement au levier. L'exemple le plus difficile, si les lecteurs veulent s'amuser à les voir, se trouve dans les entretiens au bord de la mer, où Alain essaye de démontrer le théorème de Pythagore de façon élémentaire. Et c'est absolument obscur. C'est-à-dire que notre rapport à l'élémentaire est recouvert, et il n'en est pas entretenu du tout. Et quand on veut le reconquérir, il faut aller chercher très loin. Sauf peut-être chez l'enfant qui aurait le moyen, si l'instruction était repensée à partir de ses bases, de s'approprier peu à peu ses propres pensées à partir de l'élémentaire.
Vous avez parlé, vous citez les entretiens au bord de la mer. Les trois textes que vous publiez s'appellent « Souvenirs sans égard », suivi de « Traité des outils » et « 10 leçons d'astronomie ». Et on trouve ça chez Aubier. Merci beaucoup, Emmanuel Blondel.
C'est noté. Et Adèle, vous vouliez nous parler pour finir cette émission.
Eh bien, c'est bientôt le mois d'octobre. Et en octobre, c'est la rentrée du Collège international de philosophie qui propose ce trimestre de nombreux cours, conférences et rencontres dont les thèmes sont pour le moins alléchants. Le Collège international de philosophie, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, a été fondé en 1983, entre autres par François Châtelet et Jacques Derrida. Il propose de nombreuses activités où sont organisées des activités philosophiques autour de l'idée d'intersection entre la philosophie et d'autres disciplines. A noter cette année la création d'une nouvelle intersection entre philosophie et éducation. Et beaucoup de conférences seront données sur ce thème tout au long de l'année. Alors le programme est en ligne, hein, vous trouverez le lien sur le site des Nouveaux Chemins, mais je vous annonce déjà que la première séance des écrans philosophiques, ce séminaire où l'on donne à un philosophe carte blanche pour choisir un film et proposer après la projection la réflexion que ce film lui inspire. La première séance donc aura lieu le 20 octobre autour de films documentaires « Ne me libérez pas, je m'en charge » et c'est Gérard Bras qui en assurera la présentation. A noter également la première séance d'un séminaire organisé par Daniel Cohen-Lévinas qui portera sur la tâche de l'art et de la musique à partir des écrits de Schelling. Toutes les activités du Collège international de philosophie sont libres d'accès, ouvertes à tous et s'adressent à un large public. Donc allez jeter un œil au programme dès maintenant, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site des Nouveaux Chemins.
Vive le Collège international de philosophie, merci à tous, Bentham et Alain, voilà, tous les jours les Nouveaux Chemins essaient de faire œuvre utile pour vous. Retrouvez-nous sur Internet, donc hein, Adèle vous en a parlé. Sur notre site Internet, vous trouverez toutes les informations du journal des Nouveaux Chemins, ainsi qu'un téléchargement possible des émissions de la semaine et l'écoute en ligne des émissions du mois, ainsi aussi aujourd'hui que la fiche, tout simplement, que Géraldine Mosna-Savoie a rédigée sur Bentham. En préambule à cette émission, c'est un cadeau aux auditeurs, une manière aussi de montrer la somme de travail que demande chacune des émissions et la chance pour moi d'être entourée par tant de compétences. Suite demain de cette semaine sur l'utilitarisme avec Jean-Pierre Clairaut. On viendra parler de John Stuart Mill. Pour l'heure, il est 10h59 sur France Culture. Et dans un instant, question d'époque.